France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les algues vertes responsables de la mort d'un homme, la justice française le reconnaît pour la première fois aujourd'hui. Décision de la Cour administrative d'appel de Nantes ce matin qui condamne l'État pour faute dans la lutte contre cette pollution. Les proches de cet homme seront indemnisés. Explication dans un instant. À suivre encore, François Bayrou qui pousse pour un accord sur la réforme des retraites. Il reçoit représentants des salariés et des patrons à nouveau aujourd'hui après l'échec de la nuit dernière. Le président de la CPME, la conférence des petites et moyennes entreprises. Y croit encore, il sera notre invité. À la une également, le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Chaque camp s'accuse de continuer à bombarder l'autre ce matin.
Et deux missiles ont été envoyés sur Israël ce matin. L'État hébreu menace de répliquer. Donald Trump exige que les belligérants respectent une trêve bien précaire.
A tout de suite, nous tenterons de comprendre pourquoi les Iraniens ont accepté cette trêve proposée effectivement par le président américain. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, peine requise ce matin en appel en Algérie. 10 ans de prison requis, c'est le procès en appel. Pas de métro à Marseille, 3e jour de grève aujourd'hui.
Faut faire la queue pour avoir un bus et avec la chaleur qu'il fait et mon grand âge, c'est un peu dur. Bloquer tous les métros à Marseille, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais avoir 80 ans.
Reportage dans quelques minutes. À partir de 13h30, autopsie d'un fiasco, celui de la loi sur l'énergie censée développer le nucléaire et les renouvelables. Elle devrait être rejetée cet après-midi à l'Assemblée. Son rapporteur, le député Antoine Armand, sera avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les festivals fragilisés, les exemples se multiplient. Cyril Petit, du journal Ouest France, nous explique pourquoi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le réalisateur Tony Gatliff avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'était il y a 9 ans, septembre 2016, dans les Côtes d'Armor, commune d'Illion. Jean-René Auffray part faire son jogging. Son corps sans vie est retrouvé un peu plus tard sur une plage infestée d'algues vertes. Depuis, sa famille se bat pour établir un lien entre ces algues et sa mort. Jusqu'ici, elle n'avait jamais obtenu gain de cause. Elle vient de l'obtenir ce matin avec la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a donc condamné l'État. Bonjour Maria Melkurdi.
Bonjour.
Selon la Cour, la présence d'algues vertes explique bien ce décès.
Oui, et c'est une décision historique, vous l'avez dit à l'époque. Les causes du décès de Jean-René Auffray n'avaient pas pu être clairement établi. L'autopsie avait été réalisée 19 jours après le drame. Cette décision, c'est donc un énorme pas pour la famille du défunt après une longue bataille. En 2022, vous l'avez dit, le tribunal de Rennes avait rejeté sa demande. Il avait donc fallu faire appel. Cette fois, les arguments de l'avocat ont pesé. Il s'est appuyé sur les résultats d'analyse établis dans l'estuaire d'Ouessant où le corps de l'homme de 50 ans avait été retrouvé. Il démontre la présence massive d'hydrogène sulfuré, ce gaz toxique et potentiellement mortel à haute dose. Il apparaît lorsque les marées vertes sont en putréfaction, Jérôme.
Et pour la présence d'algues vertes dans l'embouchure du Gouessant, donc, la Cour reconnaît la responsabilité de l'État qui n'aurait pas lutté contre cette pollution.
Oui, la Cour d'appel note des carences fautives de l'État dans la mise en œuvre d'actions visant à empêcher la prolifération de nitrates dans les eaux, ces polluants d'origine agricole liés au système d'élevage intensif en Bretagne. Et selon les juges, l'État n'a pas mis en œuvre les réglementations européennes et nationales destinées à protéger les eaux de toute pollution d'origine agricole. L'État est accusé d'avoir, je cite, « failli à protéger les citoyens contre un risque sérieux pour leur santé et leur bien-être ». L'État, condamné aujourd'hui donc à verser des indemnités d'un total d'un peu plus de 300 000 euros à l'épouse et aux enfants de Jean-René Auffray.
Merci Maria Melkurdi pour ces précisions. La réforme des retraites, celle qui porte l'âge légal de départ à 64 ans, va-t-elle être modifiée? C'est l'heure de vérité après 18 journées de négociations. Représentants des salariés et des patrons se sont quittés hier soir sur un échec. Mais le Premier ministre François Bayrou, lui, croit encore dans ces discussions entre partenaires sociaux. Et il a décidé de les recevoir une ultime fois pour arracher un accord. La résidence du Premier ministre où les syndicats sont reçus à midi, le MEDEF et la CPME reçus un petit peu plus tard avant de voir quel est le plan de François Bayrou, le Premier ministre, pour tenter de trouver cet accord qui n'a donc pu être s'être trouvés la nuit dernière. Voyons l'enjeu politique. François Bayrou avait accordé ses discussions sur les retraites aux socialistes pour qu'ils évitent de le censurer. En cas d'échec, le Premier ministre va-t-il tomber ? On va retrouver Lise Rosevel qui est à l'Assemblée nationale. Lise, ce sont les députés socialistes mais aussi ceux du Rassemblement national qui ont la clé.
Oui, les socialistes mettent la pression sur François Bayrou depuis des jours. Le Premier ministre s'était engagé auprès d'eux à faire revenir la réforme des retraites au Parlement. Il compte donc le mettre devant ses responsabilités dès cet après-midi lors des questions au gouvernement. Arthur Delaporte, député du Calvados et porte-parole du groupe.
Il peut chercher à nous mener en bateau, mais cet après-midi, la question sera claire. Y aura-t-il retour ou non au Parlement ? S'il n'y a pas de retour au Parlement, alors ça sera censure. S'il y a un retour au Parlement sans qu'on puisse toucher aux différents paramètres, alors ça sera censure.
Et c'est bien eux qui ont les clés, avec leur voix, mais aussi parce que la France insoumise ne peut plus déposer de motion de censure seule. La chef de file, Mathilde Panot, met donc la pression sur toute la gauche pour censurer le gouvernement.
Toutes les oppositions à la réforme de Borne se retrouveront devant leurs responsabilités, car ne pas censurer Bayrou, c'est laisser s'appliquer le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
Mais cette motion de censure, peu importe par qui elle est déposée, peut-elle aboutir ? Jusqu'ici, le Rassemblement national a toujours renvoyé le sujet des retraites à la prochaine présidentielle, préférant évoquer une censure éventuelle sur le budget à l'automne. Marine Le Pen doit interpeller le Premier ministre cet après-midi dans l'hémicycle. De quoi en savoir un peu plus sur sa position.
Lise Rosevel, ça c'est au cas où, et c'est l'hypothèse la plus probable, au cas où il n'y ait pas d'accord aujourd'hui entre syndicats et patronat. On va directement poser la question aux principaux concernés, notamment la CPME, qui sera reçue ce soir à 20h avec son président Amir Reza Tofighi, qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, la Confédération des petites et moyennes entreprises, deuxième organisation patronale. Vous serez donc reçu ce soir. Vous dites on peut encore trouver un accord à l'heure où l'on se parle ?
Bien sûr, on peut encore trouver un accord et je pense qu'on va trouver un accord. Vous savez, on n'est pas loin entre syndicats de salariés et organisations patronales, on n'est pas loin sur nos positions, sur les droits nouveaux pour les femmes, sur la pénibilité, sur l'âge d'annulation de la décote. Je pense qu'on a une voie de passage à trouver, elle existe et j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver.
Pourquoi vous arriveriez à un accord aujourd'hui alors que vous n'y êtes pas arrivé la nuit dernière ?
Écoutez, les négociations, vous savez, parfois, ça demande un tout petit peu de temps en plus. Ça demande également d'avoir entre organisations des discussions un peu plus approfondies. Moi, je pense que l'enjeu, il est trop important pour se quitter sur un constat d'échec. On est tellement proche d'un accord que ce serait vraiment dommageable pour le pays, pour les salariés, pour tous ceux qui bénéficieront de nouveaux droits à travers cet accord, d'arriver sur un constat d'échec. Encore une fois, il y a de nouveaux droits pour les femmes, l'âge d'annulation de la décote qui diminue, pour la pénibilité. Voilà, c'est un accord.
La pénibilité, justement, Amir Reza Tofighi, vous êtes contre l'automaticité, c'est-à-dire le fait d'avoir exercé une profession ne peut pas ouvrir automatiquement des droits à partir plus tôt. Ça, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous êtes prêt à revenir là-dessus ?
Écoutez, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que il y a des métiers qui sont bien évidemment plus pénibles que d'autres, et dans ces métiers, il faut que les salariés puissent être suivis et partir en anticipation lorsque leur état l'exige.
Donc il faut qu'ils voient un médecin. Il faut qu'ils voient un médecin.
Exactement.
Pour l'établir. Et là-dessus, exactement, vous voulez pas bouger.
Non, mais maintenant, dans la négociation qu'on doit avoir aujourd'hui, il faut qu'on puisse tous ensemble essayer de trouver une voie de passage entre les propositions des différentes organisations. Mais ce que nous, on dit, c'est attention à rendre automatique les départs de salariés, parce que concrètement, c'est comme si on créait des nouveaux régimes spéciaux. Et c'est ça qu'on veut éviter.
S'il n'y a pas d'accord ce soir, est-ce que ce serait une catastrophe, selon vous ?
Le mot catastrophe, je pense qu'il est exagéré, mais ce ne serait pas bon pour le pays. Ce ne serait pas bon pour le pays, parce que nous, partenaires sociaux, on doit montrer que des compromis sont possibles. Et donc, c'est jamais bon quand on a un constat d'échec, surtout dans un moment aujourd'hui, où les partenaires sociaux ont une carte à jouer. Donc, ce n'est pas une catastrophe, mais ce serait vraiment mauvais pour le pays.
Trois syndicats discutent toujours et deux organisations patronales. Est-ce que vous pourriez signer un document sans le MEDEF ? Est-ce que c'est possible ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut que des deux côtés de la table, il y ait une majorité de voix, autant côté salarié avec les trois organisations que côté patronal avec le MEDEF. Donc moi, mon souhait et mon ambition, c'est que l'ensemble des organisations autour de la table signent cet accord. Et c'est l'ambition que j'ai et je vais tout faire pour.
Vous allez arriver avec une avancée précise, une proposition précise ce soir à 20h ?
c'est encore trop tôt pour vous dire. En tout cas, on y va avec l'envie de réussir. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a bien compris qu'il faudra débouger des deux côtés pour arriver à un accord.
Merci Amir Reza Tofighi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, invité de ce 13-14.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est un classique après l'annonce d'un cessez-le-feu. Chaque camp s'attribue la victoire. Et la fin des hostilités entre Israël et l'Iran, annoncée la nuit dernière par le président américain Donald Trump, n'échappe pas à la règle. Reste à savoir si les armes vont vraiment se taire. Car ce matin, les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir brisé la trêve. Accusation reprise il y a quelques minutes à son compte par Donald Trump. D'où la prudence également dans les mots il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron.
La situation, on le voit bien, reste volatile et instable. Je pense que c'est une très bonne chose que le président Trump ait appelé à la cessation du feu. Mais les dernières minutes ont montré que la situation demeurait très fragile, donc il faut la suivre avec beaucoup de vigilance. Et il faut que chacun mette le maximum de poids pour que le feu cesse, que les discussions reprennent. Il en va de la stabilité de la région, mais également du sérieux avec lequel on peut collectivement reprendre le suivi du dossier nucléaire iranien. Je le rappelle, notre objectif à tous, c'est que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire, et c'est aussi qu'on retrouve de la stabilité dans la région. C'est pourquoi, au-delà de ce qui se passe sur l'Iran, je redis ici la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza et de reprendre l'aide humanitaire à Gaza.
La réaction du président de la République qui se trouvait en Norvège ce matin en déplacement avant de participer cet après-midi au sommet de l'OTAN à La Haye aux Pays-Bas. Situation instable, dit donc Emmanuel Macron en Israël. Il y a eu 4 morts la nuit dernière dans le sud du pays, touchés par un missile iranien. Alors comment les habitants accueillent-ils l'annonce de ce cessez-le-feu ? Reportage Farida Noir.
Elle n'est pas sereine et veut rentrer vite à la maison. Ada s'accroche à la poussette de son bébé.
I'm still scared to go outside. Right now,
j'ai toujours peur de sortir parce que là on vient d'apprendre qu'ils ont visé Haïfa. J'espérais que c'était fini maintenant, mais ils ont tiré.
L'Iran dément avoir violé le cessez-le-feu, Israël menace de riposter avec force et c'est ce que souhaite fortement Adriel.
Tant qu'ils ne capitulent pas, ça ne sert à rien. Ils veulent nous éliminer. Il faut une reddition totale. Qu'ils arrêtent toute leur activité autour du nucléaire. Qu'ils arrêtent de produire des missiles. Parce qu'ils les lancent sur des civils, pas sur des militaires. Aujourd'hui, ils ont tué 4 personnes à Beersheba. J'espère qu'on va répliquer, parce qu'ils ont tiré malgré le cessez-le-feu. Il faut qu'Israël réagisse.
Un cessez-le-feu fragile, instable, mais Daniel franco-israélien n'est pas surpris.
De toute façon, le Moyen-Orient est une poudrière. Et les égaux au Moyen-Orient sont encore surdimensionnés par rapport à l'Occident. Maintenant, qu'est-ce qui va se dérouler ? Nous, on ne sait pas.
Et c'est maintenant Téhéran qui accuse Israël d'avoir mené des frappes après l'annonce du cessez-le-feu. Peu de temps avant, l'Iran avait déclaré que ses forces armées étaient prêtes à répondre de manière décisive à de nouvelles attaques.
Reportage Farida Noir et Eric Audra, nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Nos deux spécialistes, Thibault Lefebvre et Christian Chéneau, sont avec nous. On va décrypter ensemble ce grand jeu de communication auquel on assiste en ce moment. Thibault, vous êtes en direct de Jérusalem. Ce matin, chaque camp a accusé l'autre de l'avoir visé. Donald Trump dit à l'instant que l'Iran et Israël ont chacun violé le cessez-le-feu. On peut toujours parler de cessez-le-feu alors où on se parle ?
Oui, un cessez-le-feu qui ne tient qu'à un fil. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit, vous l'avez entendu, parce qu'à peine 3h30 après l'annonce de la paix décrétée par Donald Trump, 2 missiles ont été envoyés sur le nord d'Israël. Ces missiles ont été interceptés. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dégâts majeurs, mais l'impact diplomatique est catastrophique. Le ministre de la Défense israélien, il s'appelle Israël Katz, a annoncé des représailles énergiques au cœur de Téhéran. Alors l'Iran a d'abord nié être à l'origine des tirs de missiles. Ses dirigeants affirment désormais avoir répondu à une violation israélienne du cessez-le-feu. Et puis, vous l'avez dit, le président américain Donald Trump vient de réagir. Il renvoie les belligérants dos à dos et il demande aux Israéliens de ne surtout pas bombarder l'Iran.
Alors, Israël a dit avoir atteint ses buts de guerre en Iran. Sur la destruction du programme nucléaire iranien, on peut quand même avoir de sérieux doutes ?
Oui, ce matin, le gouvernement a annoncé dans un communiqué avoir atteint ses objectifs de guerre, affirmant avoir éliminé, je cite, la menace existentielle du nucléaire et des missiles balistiques. Alors concrètement, le programme nucléaire est évidemment ralenti, mais personne ne sait où sont les 400 kilos d'uranium enrichi qui pourraient servir de base pour créer le combustible nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique. Quant aux missiles balistiques, il en resterait un peu plus d'un millier selon le Conseil à la sécurité nationale israélien. Mais Jérôme, l'important n'est pas là. La vraie victoire pour Israël, c'est d'avoir désormais la maîtrise du ciel iranien. Le territoire de l'ennemi est sous la surveillance des drones de l'État hébreu. Et comme en Syrie ou au Liban, l'aviation peut frapper où elle veut et quand elle veut, dès qu'une menace est identifiée.
Regardons maintenant côté iranien avec vous, Christian Chéneau. L'Iran qui déplore au moins 610 morts depuis le début de cette guerre, selon son ministère de la Santé. Pourquoi l'Iran a accepté ce cessez-le-feu ?
Parce que continuer la guerre aurait été suicidaire pour le régime, dont l'obsession est sa survie. Les bombardements israéliens ont fait très mal et commencé à s'étendre à des objectifs politiques, comme on l'a vu hier avec cette frappe sur la prison d'Evin. Le largage par l'aviation américaine de bombes anti-bunker sur 3 sites nucléaires a vraisemblablement pesé très lourd dans les calculs des responsables iraniens. Pour la République islamique, l'important est d'avoir tenu le choc, d'avoir résisté aux frappes israéliennes et américaines, d'où son narratif qui dépeint cette guerre de 12 jours comme un cadeau divin, symbole de victoire, de triomphe, selon les mots d'un communiqué officiel. Évidemment, personne n'est dupe de cette rhétorique, mais pour le régime iranien, ne pas perdre, c'est déjà gagné.
Hier soir, Christian, les Iraniens ont bombardé une base américaine au Qatar. Et quelques heures plus tard, ils ont accepté un cessez-le-feu. Comment on peut passer de l'un à l'autre ?
En fait, nous avons assisté, entre guillemets, à une chorégraphie militaire où chaque partie a joué sa partition. Conformément à la Charte des Nations Unies et son article 51, l'Iran était en légitime défense après les bombardements américains et devait riposter, mais pas trop, pour ne pas provoquer en retour une réponse dévastatrice des États-Unis. Téhéran a donc pris soin de prévenir Washington avant ses frappes symboliques sur la base militaire d'El Oudad au Qatar, évacuée auparavant. Une politesse que Donald Trump a tenu à saluer et apprécier, remerciant l'Iran par un message sur son réseau social, le président américain pouvant ensuite annoncer un cessez-le-feu, sans doute déjà négocié avec Israël et l'Iran.
Merci Christian Chéneau et Thibault Lefebvre pour ces explications. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est emprisonné en Algérie depuis le 16 novembre et ce matin, il était rejugé en appel après sa condamnation à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'unité nationale algérienne. Le parquet a demandé une peine plus lourde, 10 ans de réclusion. L'audience a duré 20 minutes. Boualem Sansal n'avait pas d'avocat à ses côtés. Réaction d'Arnaud Benedetti, fondateur de son comité de soutien.
On s'attendait en effet à un procès difficile. On se retrouve avec un pouvoir algérien qui ne lâche rien, qui entend faire de Boualem Sansal un exemple contre tous ceux qui osent critiquer le pouvoir algérien. Le rapport de force, il est exclusivement imposé par les autorités algériennes aux autorités françaises qui ont refusé jusqu'à présent de rentrer dans cette escalade. Manifestement, on constate qu'aujourd'hui, la position française toute retenue ne porte aucun résultat et que notre ami Boualem Sansal, s'il était condamné à 10 ans dans une semaine, serait de fait condamné à mourir en prison, sauf si une grâce présidentielle intervenait. On n'est pas abattu, hein. On est combatif plus que jamais. Et évidemment, nous gardons espoir, mais cet espoir doit être entretenu aussi d'une certaine manière par la volonté des autorités françaises de faire en sorte aujourd'hui que l'on puisse sortir le plus rapidement, Boualem Sansal, du cachot dans lequel l'ont jeté les geôliers algériens.
Arnaud Benedetti, le fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, répondait à Fanny Imbert. Verdict attendu le 1er juillet. C'est une ligne d'écoute pour les femmes. Elle existe depuis 1992. Le 3919 n'a jamais reçu autant d'appels. Plus de 100 000 l'an dernier, avec un pic à l'automne, durant le procès des viols de Mazan. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Et c'est l'une des explications de ce chiffre.
Ouais, 6 fois plus d'appels par mois au 3919 pendant le procès par rapport au début de l'année. Alors si ce chiffre augmente, c'est aussi parce que le numéro fonctionne désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible en 200 langues. Les violences conjugales que vivent ces femmes, elles sont multiples, psychologiques, verbales, physiques, administratives, et les écoutantes reçoivent des témoignages de plus en plus rudes. Mine Gounbaï est la directrice générale de la Fédération Fédération nationale Solidarité féminine qui gère ce 39-19.
Elle constate ces derniers temps que les descriptifs des violences sont de plus en plus violents, que des femmes sont de plus en plus menacées de mort, que des actes de torture et de barbarie sont de plus en plus racontés au téléphone. Donc on constate effectivement que la gravité des violences est effectivement quelque chose qui est marquant, et en tout cas les écoutantes l'ont signifié.
Les femmes sont souvent, elles, mises à la porte du foyer par les conjoints violents, sans moyens financiers. Or, le nombre d'hébergements pour les mettre à l'abri, voilà, c'est là que le bât blesse toujours.
Aujourd'hui, les moyens nécessaires pour mettre en sécurité et permettre aux femmes victimes et à leurs enfants de pouvoir effectivement être dans un cadre de sécurité sont loin d'être satisfaisants, que ce soit en matière d'hébergement, que ce soit en matière d'accompagnement global au quotidien. Aujourd'hui, les associations de terrain nous font déjà part, pour les femmes et leurs enfants, de manque de moyens criants.
Trois remarques pour terminer. Les enfants sont victimes directes, indirectes de ces violences. La stratégie des contre-plaintes se développe. Les femmes sont accusées de violences réciproques.
Les hommes qui attaquent les femmes après avoir été eux-mêmes dénoncées, c'est
exactement. Ça Exactement. Ouais. Et ça n'est pas parce que les couples sont séparés que les violences psychologiques, financières, le harcèlement s'arrêtent. Deux petits chiffres pour terminer, si j'ai le temps. 99% des victimes qui appellent sont des femmes. 98% des auteurs de violences sont des hommes.
Je rajoute quelques chiffres. 4, le 3919, c'est ce numéro de téléphone à composer. Merci Béatrice Duguet. Le procès en appel des viols de Mazan, nous en parlions de ce procès. L'appel se déroulera du 6 au 9 octobre devant la cour d'assises de Nîmes. Un seul des 51 condamnés ayant décidé de faire appel, Dominique Pellicot par exemple, ne l'a pas fait. Marseille à pied, Marseille à vélo, mais certainement pas Marseille en métro aujourd'hui. Pour la troisième journée consécutive, la grève se poursuit à l'appel du syndicat majoritaire Force Ouvrière, qui demande à revoir l'organisation du travail de certains agents. Selon la direction, il n'y a qu'une trentaine de personnels en grève, mais les perturbations sont très importantes pour les voyageurs, comme l'a constaté Philippe Bocara.
Ici, nous sommes dans un secteur résidentiel de l'Est de Marseille et les conséquences de cette grève sont importantes, notamment pour Ella.
Je devais aller bosser et du coup, j'ai pas pu parce qu'il n'y a pas de métro. J'ai deux lignes de bus et deux lignes de métro. Donc sans métro, c'est compliqué parce que j'habite ici et je dois aller travailler à Bonneven.
Pour les transports en commun, il ne reste que la solution des bus. Pas de tramway dans ce 12e arrondissement. Pas évident pour Elisabeth.
Il faut faire la queue pour avoir un bus, et avec la chaleur qui fait et mon grand âge, c'est un peu dur. Bloquer tous les métros à Marseille, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais avoir 80 ans.
Vous le savez, nous sommes en période d'examen et de stage pour les plus jeunes. Les enjeux sont importants en termes de mobilité et la famille de Gilles en fait les frais.
Mon fils devait aller à un stage et en seconde et j'ai dû l'emmener, quoi. Donc c'est un souci. J'espère que ça ne va pas durer.
Reste la solution du vélo choisi par Lucie. Elle arrive en nage au terminus bus et métro de la Fourragère.
C'est galère parce que j'ai ma voiture qui est garée loin du centre-ville de là où j'habite. Et du coup, pour aller là, pour chercher ma voiture, d'habitude j'y vais en métro. Parce qu'il n'y a que le métro, c'est pas facile.
Les conséquences sont importantes aussi pour les touristes, très nombreux à Marseille pour ce début de saison.
Reportage ici Provence, près de Strasbourg. Deux adolescents blessés dans une agression au couteau, dont un très gravement. Cela s'est passé hier soir près d'une école d'Ilkirch-Grafenstaden. Les jeunes gens âgés de 16 et 17 ans ont été touchés l'un à la gorge et l'autre au dos. Leurs agresseurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Comment préparer la sortie des personnes condamnées? C'est le travail des SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont 5600 dans notre pays, qui suivent 250 000 personnes, dont 83 000 détenus. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lancé ce matin des états généraux pour 6 mois, pour avoir des peines plus lisibles. L'enjeu, c'est d'éviter la récidive. Sarah Guibaudot s'est rendue au centre pénitentiaire de Réaux, en Seine-et-Marne.
Cette conseillère d'insertion et de probation, qui veut rester anonyme, aide les détenus à préparer leur demande d'aménagement de peine.
Aujourd'hui, c'est un bracelet que nous proposons. Donc vous avez physiquement un bracelet, des horaires respectés.
Okay. Cet homme a été condamné à 4 ans de prison pour des violences. La conseillère cherche à comprendre quelle position il a aujourd'hui sur les faits.
Qu'est-ce que vous pensez que la victime a ressenti? Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? Est-ce que vous pensez que vous aviez une autre solution?
J'ai réfléchi.
Son évaluation est un appui pour le juge d'application des peines, qui accordera ou non une sortie anticipée.
Là, ça fait partie des rôles du SPIP, d'évaluer le risque de récidive. Vous n'êtes pas un petit jeune, donc il y a moins de risque de passage à l'acte. J'ai surtout relevé le fait que si vous sortez là, vous n'avez pas de travail.
Ce détenu avait fourni une proposition d'embauche qui n'a pas été jugée solide. La conseillère a donc trouvé une association pour l'accompagner.
Le matin, c'est vraiment ciblé sur les recherches d'emploi.
Oui, pas de problème.
Et l'après-midi, c'est...
Quel serait demain le rôle des SPIP dans la révolution pénale annoncée par Gérald Darmanin ? La création d'une vraie peine de probation en dehors de la prison intéresse les syndicats, mais ils dénoncent un manque de personnel face à l'explosion de la population carcérale.
Deux départements sont toujours en vigilance orange en raison de la chaleur, l'Isère et le Rhône, alors que les températures ne cessent de grimper. Demain sera la journée la plus chaude de la semaine. On verra ça dans un instant avec Sébastien Léas, mais tout cela accroît encore le risque d'incendie. Fort heureusement, nos pompiers ont désormais de nouveaux outils pour lutter contre ces feux, et notamment l'intelligence artificielle qui permet, grâce à des caméras, de détecter le plus vite possible le moindre départ de feu. Philippe Père l'a constaté en Touraine.
On est au pied du château d'eau de Coteaux-sur-Loire. Là-haut, deux caméras qui peuvent repérer la moindre fumée suspecte jusqu'à 20 km à la ronde.
Donc l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle nous permet vraiment d'assurer la détection en continu.
Jean-Simon Chaudier est le fondateur de Fire Tracking, l'entreprise qui a développé cette technologie.
On arrive à dissocier la fumée d'un barbecue d'un départ de feu, où là, la fumée va se densifier très rapidement, prendre de l'ampleur, se propager verticalement.
En cas de fumée suspecte, donc, une alarme se déclenche directement au centre opérationnel des pompiers. Le lieutenant-colonel Desbois est le chef du projet vidéo-détection des feux de forêt au sein du SDIS d'Indre-et-Loire.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a de plus en plus sur la région des feux de 200-300 hectares, donc c'est déjà pas anodin. Et qui dit détection précoce, permet nous derrière, avec les caméras de levée de doute, de dimensionner les moyens qu'il faut envoyer.
Et donc de gagner du temps précieux quand on sait qu'on va être de plus en plus exposé aux feux de forêt, assure Thomas Campo, préfet d'Indre-et-Loire.
Aujourd'hui, nous montons en compétences pour nous préparer à faire face à des incendies toujours plus nombreux, plus précoces, plus tardifs, plus fréquents. Et avec 12 caméras qui sont déployées entre maintenant et le début de l'année prochaine, nous couvrirons la quasi-intégralité du territoire et de ses massifs forestiers.
Déjà 5 caméras ont été installées, 2 le seront dans les prochains jours et les 5 restantes le seront d'ici à la fin de l'année prochaine.
Reportage ici Touraine. Du feu, des flammes, mais pour la bonne cause. C'était en fin de semaine dernière au Stade de France pour les 3 concerts à guichet fermé de la star américaine Beyoncé. On vous a déjà parlé de sa prestation scénique sur l'antenne d'Inter, de ses invités, de ses guests, comme on dit. Mais on n'avait pas encore parlé de l'aspect business. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Ces concerts ont généré 34 millions d'euros de recettes billetterie. Ce sont les shows les plus rentables de l'histoire de notre pays. Quelle est la recette d'un tel succès ?
Alors on va lister plusieurs facteurs. Déjà, une politique de prix savamment définie avec des billets compris entre 90 et 280 euros via les canaux de diffusion officiels. Donc un peu plus cher que pour d'autres artistes. Il y a la configuration du stade qui a permis de vendre 215 000 billets en 3 dates. Ce choix, justement, d'enchaîner 3 stades de France, du jamais vu pour une artiste internationale. Et au passage, Beyoncé égale le record de Johnny Hallyday. Elle en est à 9 stades de France depuis le début de sa carrière.
Il y a un autre phénomène qui vous a frappé, Adrien, c'est la présence d'énormément de spectateurs venus de l'étranger.
Oui, ils étaient 90 000 en tout sur les 3 dates, venus du reste de l'Europe.
Donc c'est quasiment un concert sur 3.
Ah, quasiment, ouais, oui, on est là sur un peu plus d'un tiers. Ils étaient venus, oui, donc du reste de l'Europe, mais aussi de bien plus loin, Paris étant, avec Londres, les seules étapes hors États-Unis de cette tournée. Les fans brésiliens ou mexicains en ont donc profité, puisque pas besoin de visa pour voir Beyoncé à Paris. Mais les Américains ont aussi fait le déplacement en masse, cette fois à cause des prix des billets qui s'envolent chez eux. On peut atteindre plusieurs milliers de dollars. L'aller-retour en France s'avère donc parfois plus rentable.
Merci Adrien. Derrière, c'est plus simple pour un Mexicain de voir Beyoncé à Paris qu'aux États-Unis. Il fallait y penser. On était à Marseille il y a quelques minutes avec la grève du métro. Je voudrais qu'on y retourne pour cette bonne nouvelle, pour la bonne mère, puisque l'appel à la générosité qui a été lancé l'an dernier par le diocèse de Marseille pour restaurer Notre-Dame de la Garde a été entendu. 2 800 000 euros recueillis, 40 000 donateurs particuliers, mais aussi des entreprises et des collectivités locales. Les travaux vont pouvoir s'achever début décembre. Vous retrouvez sur le site du 13-14 le feuilleton que Mathilde Vinceneux, vous en souvenez, avait consacré à ce chantier. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, toujours plus chaude. Puis à partir de 13h30, le naufrage de la loi programmation énergie, elle devrait être rejetée cet après-midi à l'Assemblée. Les enjeux sont pourtant énormes pour notre pays. Avec quelles conséquences pour les particuliers et pour les entreprises? 01 45 24 7000 pour vos questions. Le rapporteur de cette proposition de loi, le député Renaissance Antoine Armand, est avec nous. 13h45, notre feuilleton avec une famille qui forme un chien guide aveugle, et ça prend du temps. On va rentrer dans le métro avec le chien tout à l'heure. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous?
Eh bien de Brie en Ille-et-Vilaine à Don Rémy dans les Vosges, en passant par Bastia en Haute-Corse, on ira voir comment vont les petits festivals de l'été, Jérôme.
Et avec vous, Frédéric, un réalisateur.
Il est aussi acteur, scénariste, compositeur. Il s'agit de Tony Gatliff, dont le nouveau film Ange, qui était en sélection officielle du dernier Festival de Cannes, sortira dans les salles demain. Et avec lui, c'est un groupe polonais que nous écouterons, groupe qu'il a découvert en concert dans une cave il y a maintenant 30 ans dans la banlieue de Varsovie.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Oh, mais comment tu fais pour avoir l'air en pleine forme dès le matin comme ça?
Ben, je dors mieux. Avec mes volets roulants Velux, je ne suis plus embêté par la lumière extérieure et il fait tellement moins chaud dans ma chambre.
Sérieux?
Mais oui, fonce! Il s'installe en moins d'une heure et en ce moment, tu as une chance par jour de te le faire rembourser à 100%.
Cet été, échappez à la chaleur et gagnez en confort avec les volets roulants Velux. Modalité complète sur velux.fr.
France Inter, partenaire du film Amélie et la métaphysique des tubes de Maëlys Valade et Liane Chohan, prix du public au Festival d'Annecy.
Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube.
Amélie est une petite fille belge née au Japon pour qui le monde n'est qu'aventure. Mais le jour de ses 3 ans, un événement va changer sa vie.
Est-ce que c'était ça la vie? Une grande bouche vorace qui ne retenait rien?
Mais non, les souvenirs restent.
Je veux tout voir. Écrire passionnément chaque page de mon existence.
Amélie et la métaphysique des tubes, le 25 juin au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et la chaleur s'accentue donc?
Oui, malgré une petite respiration hier et surtout cette nuit sur les régions du Nord, la vague de chaleur se poursuit à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, la vigilance orange canicule est maintenue sur l'Isère et le Rhône. Et cet après-midi, les températures vont repartir à la hausse, passant de nouveau régulièrement au-dessus du seuil de forte chaleur de 30 degrés. Prévoyez donc 28 à 35 degrés avec 30 degrés pour Nantes et pour Paris. 33 degrés pour Lyon, Aurillac, Biarritz et La Rochelle, mais on ira encore plus haut, jusqu'à 36 ou 37 degrés dans l'arrière-pays provençal notamment. Les maximales seront quand même plus modérées sur l'extrême nord-ouest avec 24 degrés à Brest, 25 à Lille ou encore 26 degrés à Rouen. Cette chaleur sera évidemment largement ensoleillée sur l'ensemble du pays avec un ciel tout de même un peu plus variable au nord de la Seine et puis un soleil légèrement voilé sur le centre-est et entre la Loire-Atlantique, le Limousin et les plaines du sud-ouest. En revanche, cet après-midi, et de manière assez classique, quelques averses localement orageuses vont bourgeonner sur les Pyrénées. À partir de la fin de journée, vers 19-20 heures, des orages plus marqués sont attendus sur le Pays Basque. Durant la soirée et la nuit, ces orages, parfois porteurs de petites grêles et de rafales soutenues, vont lentement balayer l'Aquitaine.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Antoine Armand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, député Renaissance de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie de Michel Barnier à l'automne dernier. Et vous êtes aussi en ce moment rapporteur de la proposition de loi sur la programmation énergétique, c'est-à-dire un texte qui veut fixer notre plan pour produire notre énergie jusqu'en 2035, avec l'idée, ça c'était l'objectif de départ, de faire davantage de nucléaire pour sortir des énergies fossiles. C'est ce qui a été voté au Sénat. Sauf que la semaine dernière, les députés, eux, ont voté des amendements qui ont vidé cette loi de sa substance. J'en cite deux. L'un, RN, pour relancer la centrale de Fessenheim, alors qu'elle est déjà en partie démantelée. Et l'autre, LR, pour stopper toute installation nouvelle en France. d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, ce qu'on appelle un moratoire qui a été voté par des députés LR, donc, mais aussi du Rassemblement National et de ses alliés de l'UDR, d'Éric Ciotti, tout cela dans un hémicycle déserté. Résultat, le texte qui sera mis au vote cet après-midi à l'Assemblée devrait être rejeté. Alors pourquoi ce naufrage? Avec quelles conséquences? Pour les projets nucléaires, pour le renouvelable, ces projets vont-ils se retrouver à l'arrêt? Le gouvernement de François Bayrou peut-il tomber sur ce dossier? J'attends vos questions. 01 45 24 7000, vous passez également via l'application Radio France. Antoine Armand, il est déjà mort et enterré, ce texte?
On verra tout à l'heure, vers 17h, le vote de l'ensemble de l'Assemblée, mais avec le groupe Ensemble pour la République, avec le président Attal, nous avons annoncé, j'ai annoncé que je souhaitais qu'on rejette ce texte, pour les raisons que vous avez mentionnées. J'ajoute un point. La semaine dernière, on a travaillé beaucoup dans l'hémicycle et on a trouvé des compromis qu'on n'avait jamais trouvés dans une loi sur l'énergie. Il y avait une relance du nucléaire, inédite, mais il y avait aussi des objectifs très ambitieux pour les énergies renouvelables. 200 TWh, sans rentrer dans les détails, d'ici 2030. Et puis, il y a eu ce moratoire sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, mais le solaire, il faut bien entendre ce qu'on dit derrière. C'est les particuliers, les gens que vous connaissez qui posent des panneaux solaires. C'est les agriculteurs qui veulent avoir un complément de revenus et qui mettent des panneaux solaires sur leurs champs. C'est toute une industrie, c'est toute une économie qui serait touchée si un tel moratoire était adopté.
Ça veut dire que la France est à l'arrêt aujourd'hui. On ne peut plus rien décider. Vous aviez cet objectif-là et finalement, ce texte vous a échappé.
Ça veut dire que certes, il y a le contexte politique, certes, il y a la fragmentation, mais ça veut dire que même sur des sujets de cette importance, on parle, vous parliez à l'instant, je fais bien la différence entre la météo et le climat, mais vous parliez à l'instant des fortes chaleurs, les années précédentes ont été parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées, ça veut dire que même sur des sujets qui devraient réunir nos compatriotes, l'écologie, la capacité à faire de l'énergie propre en France, à avoir de l'énergie pour nos industries, on a du mal à se mettre à la hauteur de l'enjeu, on a du mal à laisser de côté, au fond, les éléments les plus abrasifs des programmes des uns et des autres et de trouver ce socle de compromis dont la nation a besoin pour réussir la transition écologique, pour réussir le cap énergétique qu'on se fixe.
À qui est-ce que vous en voulez aujourd'hui, Antoine Armand?
J'en veux à personne. J'en veux d'abord pas aux députés qui sont présents, qui votent, qui, comment dirais-je, expriment leurs convictions. Je trouve dommage que collectivement, quand on nous regarde, on voit d'abord des effusions de colère et des disparités dans les points de vue. Et surtout, je vais vous le dire franchement, qui aujourd'hui peut contester le besoin de produire davantage d'énergie propre dans notre pays? Alors oui, il y a la fameuse guerre, si vous me pardonnez l'expression, il y a peut-être la guéguerre entre les énergies renouvelables et le nucléaire. On a la chance d'avoir en France le nucléaire et on a la chance de pouvoir développer avec l'hydroélectricité, avec le solaire et avec l'éolien des filières industrielles dans le pays. Pourquoi est-ce qu'on en fait une guerre de religion? Pourquoi est-ce que dans une partie de l'hémicycle, on a une opposition aveugle au nucléaire, et de l'autre côté, on a une opposition aveugle aux énergies renouvelables? Vous n'avez pas aujourd'hui un scientifique sérieux qui ne dit pas qu'on a besoin des deux en France.
Vous auriez pu vous opposer à ces amendements qui ont été votés. Le problème, c'est que vos députés n'étaient pas là la semaine dernière. Près de 90% d'abstention chez vous, dans votre groupe, au moment du vote sur Fessenheim. 75% au moment du vote sur le moratoire éolienne et photovoltaïque. Ça les intéresse pas, les députés Renaissance, ce texte, programmation énergétique?
Je suis pas là pour excuser les uns et les autres. Je note simplement que nous n'étions pas du tout le groupe le moins présent et que des groupes comme les écologistes ou comme les socialistes
étaient encore plus absents.
Oui,
que vous.
Mais je regrette, et vous avez raison de le dire, j'ai pas de difficulté à en parler, je regrette le manque de présence des uns et des autres sur ce sujet.
On a un amendement sur l'avenir de l'éolien et du photovoltaïque dans notre pays. C'est central, on doit défendre ses convictions. Les trois quarts de vos députés sont pas là.
Mais comme les 4/5 de l'ensemble des autres groupes n'étaient pas présents, parce qu'il y a d'autres travaux en même temps, parce que certains avaient peut-être d'autres activités. Je ne suis pas là pour excuser les collègues les uns après les autres. Oui, c'est la loi que je défendais. Donc évidemment, j'aurais préféré que les collègues soient là et qu'on repousse cet amendement et que je puisse venir aujourd'hui dans le 13-14 vous dire nous allons voter pour cette loi.
Je ne sais pas s'il fallait le voter ou pas. Je dis simplement que quand on a des convictions, on vient dans l'hémicycle pour les défendre.
Mais je ne peux être que d'accord avec vous. Et comme rapporteur, j'étais dans l'hémicycle. Ensuite, il y a une différence à faire. Et là, on touche un autre problème politique de notre temps entre le moratoire et la réouverture de la centrale de Fessenheim. Pour que nos auditeurs comprennent, la centrale de Fessenheim, elle n'a même plus sa salle des machines. Donc, voter un amendement qui dit on va essayer de rouvrir une centrale qui est déjà démantelée, c'est le pur populisme. C'est-à-dire que c'est un faux espoir, c'est un leurre, ça n'arrivera pas. Le député de Fessenheim, Raphaël Schellenberger, a très bien expliqué pourquoi ce n'était pas possible. Et là aussi, on touche à une limite. Nos concitoyens qui regardent, qui s'interrogent, qui se disent « formidable, on va rouvrir une centrale, mais c'est impossible ». Alors quel message de crédibilité et de sérieux énergétique on envoie ? C'est pas à la hauteur de nos institutions.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement pour le nucléaire, pour les renouvelables dans notre pays, dans les 10 années qui viennent ? C'est Guillaume qui nous appelle de Brest. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bah oui, effectivement, moi je voulais demander à Antoine Armand ce qu'il en était pour l'éolien en mer. Moi j'ai un projet d'éolien en mer qui se dessine. Il y a 18 gigawatts qui sont prévus actuellement en 2035 et 45 gigawatts en 2050. Est-ce que ça reste toujours valable ou est-ce que je pose le crayon et je m'arrête là ?
Vous travaillez sur un projet à quel endroit ? Au large de la Bretagne par exemple ?
Alors il n'y a pas encore de localisation, pour l'instant c'est juste un développement de techno, mais il y a énormément d'argent qui va être investi, etc. Moi je mets aussi de l'argent de mon côté. Et en fait cette incertitude là, elle est un peu empêchante, on va dire, elle est un peu problématique.
Combien de salariés dans votre entreprise, Guillaume, en un mot ?
Alors actuellement on est environ 5 et on travaille sur une nouvelle techno et on dit ça se déployer très vite quoi.
Merci Guillaume pour votre question, Antoine Armand.
C'est la meilleure illustration de pourquoi il ne faut pas voter ce moratoire. En France, c'est des milliers d'emplois et de l'industrie. Est-ce que la loi va passer ? J'espère que non et je pense que ce moratoire donc n'entrera pas en vigueur. Comment est-ce qu'on fait pour permettre ce développement notamment de l'éolien en mer ? On a besoin du décret qui porte programmation de l'énergie et qui donnera les appels d'offres parce que l'énergie est l'industrie par excellence. Donc elle a besoin de cadre, de visibilité, de stabilité, comme notre pays, vous me direz par ailleurs. Et c'est ce que doit maintenant mener à bien le gouvernement dans le cadre de son décret.
Mais c'est-à-dire que si la loi n'est pas votée, le gouvernement va prendre un décret qui, au fond, décidera à peu près la même chose ?
C'est
ça. En tout cas, ce qui était prévu ?
D'abord, c'est la responsabilité du gouvernement de choisir de le prendre ou de prendre en compte davantage d'avis parlementaires pour le prendre. Mais on en a besoin. On a aujourd'hui besoin, c'est ce que disait monsieur à l'instant, de cadre pour nos industries. Maintenant, la PPE, c'est ce décret, il vise quelques années, ce dont on a besoin, et c'est pour ça qu'on a besoin de passer par la loi, c'est d'une vision à 10, à 15, à 20 ans.
Le
c'est
décret, il peut nous engager, il peut engager de l'argent public sur combien d'années ?
Il engage pour 7, pour 8 ans dans les prochaines années. C'est notamment indispensable pour l'éolien en mer, qui est une filière industrielle dans laquelle la France a du leadership et qu'on doit soutenir.
Donc, il faut une loi pour aller au-delà. Pour 10 ans ou 15 ans, on ne peut pas faire
pour les énergies renouvelables comme pour le nucléaire. Imaginez-vous les investissements que les Français, que le public, le secteur public, que le secteur privé va consentir. Dans quel pays la représentation nationale ne donne pas de la vision à ses industriels, aux particuliers sur 10, sur 20 ans ? On en a besoin.
Sur les nouveaux réacteurs EPR2, même chose. L'objectif, c'était de lancer la construction de 14 nouveaux réacteurs qui seraient achevés dans 5 ans. Déjà, le délai paraît quand même extrêmement court. Est-ce que là encore, vous pourrez engager la construction de ces réacteurs si la loi n'est pas votée ?
Alors, il ne s'agissait pas de finir la construction, mais bien de la débuter, de débuter ces nouveaux réacteurs. Et oui, nous en avons besoin pour que d'ici 2035 à 2040, les premiers entrent en service. C'est le travail que mène en ce moment le gouvernement. J'espère que la décision finale sera prise d'ici la fin de l'année. Mais vous savez, le nucléaire, on peut être pro ou anti-nucléaire. Il faut remarquer qu'en France, le nucléaire a quasiment jamais été inscrit dans la loi. Donc, il y a une question démocratique. On engage une puissance colossale financière, industrielle avec le nucléaire. Moi, je suis pour le nucléaire, mais je comprends que d'autres souhaitent, et c'est mon cas aussi, qu'on ait un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée, au Sénat, et qu'à la fin, ce soit l'ensemble des représentants du peuple français qui décident pour le nucléaire. En plus, il y a une majorité dans le pays aujourd'hui. Donc, nous aurons, à un moment ou à un autre, besoin d'une loi qui vienne définir, fixer ces objectifs nucléaires.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on engage la France encore plus dans la voie du nucléaire, mais on va le faire non pas par un vote des députés et des sénateurs, on va le faire parce que le gouvernement va prendre un décret.
Mais nous avons la possibilité de le faire si les sénateurs et les députés, dans les prochains mois, se mettent d'accord, s'ils sont prêts à un compromis pour l'intérêt général et au service de l'écologie.
Gérard nous appelle du département du Val d'Oise. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Armand.
Nous vous écoutons.
À propos de crédibilité, ne pensez-vous pas qu'à force de faire de l'écolo-bashing, comme le font la droite, Renaissance, le Rassemblement National et même le président Macron, on aboutisse à n'importe quoi, c'est-à-dire exactement à ce qui se passe aujourd'hui au sujet de cette loi et de ce moratoire ?
Merci Gérard pour cette question. Antoine Armand vous répond.
J'entends aujourd'hui beaucoup de gens qui reprochent à mon parti, qui reprochent à mon groupe d'être au contraire trop écologiste et d'aller trop loin dans l'écologie. On a tenté de repousser la fin des zones à faible émission. J'ai défendu et mon groupe a défendu la continuité de MaPrimeRénov. Donc j'entends autant les accusations d'être trop écologiste que d'être pas assez écologiste. Il y a une voie pour l'écologie en France, il y a une voie pour l'énergie, c'est celle de la rationalité. Demain, on aura besoin de consommer moins d'énergie et de produire plus d'énergie propre. On aura besoin de nucléaire et de renouvelables. Et nous devons faire comprendre cette nécessité vitale à nos concitoyens et, j'espère, dépasser aujourd'hui l'opposition aveugle qu'on constate. Je vais vous dire très sincèrement, est-ce que c'est une question politique de savoir la manière dont on fabrique de l'électricité aujourd'hui dans notre pays ? Je ne crois pas que ça le devrait l'être.
Manifestement, ça l'est.
Devrait être, mais je crois qu'aujourd'hui, cette instrumentalisation politique des questions énergétiques est néfaste pour l'industrie et pour l'écologie.
Antoine Armand, que reste-t-il du socle commun que vous étiez censé former avec les députés Modem de François Bayrou, avec les députés Horizon d'Édouard Philippe et avec les députés Les Républicains? C'est normalement ce socle qui soutient l'action du gouvernement. On a l'impression qu'aujourd'hui, il est complètement éparpillé.
Oui, personne ne peut nier qu'on est dans une situation politique inédite et sans doute un peu inextricable. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation de coalition avec celles et ceux qui veulent bien participer à une coalition pour que le pays ait un gouvernement et pour que le pays ait un budget à la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire que ce socle commun qui est né d'un coup, qui est né à l'automne dernier sous le Premier ministre Michel Barnier...
Il est mort.
Est arrivé à une maturité qui lui permet de travailler ensemble. Je constate qu'il n'y a pas de contrat de coalition, par exemple. Dans un pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme l'Italie, il y a des contrats de coalition qui permettent de dire « voilà ce qu'on va faire ensemble et voilà ce qu'on laisse de côté ».
Il n'existe pas ce socle commun aujourd'hui ?
Si nous voulons arriver à le faire exister, si nous voulons avoir de la stabilité, mais il n'y a pas de contrat de coalition. Donc on manque d'objectifs communs, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, on manque d'objectifs communs pour parvenir à donner de la stabilité au pays.
D'un mot, Antoine Armand, engagement politique comme député, engagement politique aussi au municipal, peut-être à Annecy au printemps prochain. Est-ce que vous avez pris votre décision ?
On verra le moment venu. J'ai lancé un collectif transpartisan de citoyens annéciens qui se plaignent aujourd'hui de l'absence de fondamentaux dans la ville, la circulation, la propreté, la sécurité, mais qui veulent aussi une transition écologique, énergétique, rationnelle et juste. Et je crois que c'est un très beau combat aussi à mener localement.
Donc vous êtes candidat, si je comprends bien.
On verra le moment venu. Je comprends que vous tentiez d'avoir des réponses à des questions que je n'ai pas posées.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Comment sont formés les chiens guides d'aveugles? Avant de retrouver leur maître ou leur maîtresse, ils passent une dizaine de mois dans une famille bénévole d'accueil. Tout cela, c'est pour apprendre les bases. Simon Le Baron nous fait depuis hier rencontrer Étienne et Sarah qui accueillent Van Gogh, un jeune labrador. Et aujourd'hui, deuxième épisode, Sarah nous emmène dans le métro.
Van Gogh, tu viens? Allez, viens. On va partir de la maison. Donc, on a deux choses à lui mettre en plus de la laisse. Son petit dossard pour montrer que c'est un élève chien guide, donc c'est ce qui lui permet de aussi pouvoir prendre tous les transports sans qu'on soit embêté. Il faut savoir que les chiens guides sont autorisés partout, sur le papier. On a aussi des séances à l'école toutes les deux semaines et on nous ajoute des nouvelles choses. Et donc maintenant on a un halti qui est comme à l'école pour les chevaux, donc on lui met autour du nez et du cou et ça nous permet de lui relever la tête quand il mange des cochonneries qui sont par terre, soit tout le temps. Je pense qu'il aime pas trop, ou en tout cas, il fait un peu la tête quand je lui mets. Je trouve qu'il prend un air tout triste et il se met à plus bouger. À l'école, on nous a dit que c'est parce qu'il se mettait dans son rôle de chien guide hyper concentré. Donc, j'espère que c'est ça. Hop. Allez, Van Gogh, on part au boulot. Passage piéton, alors faut savoir qu'on doit s'arrêter. Ah, bon, il fait pipi, mais petit raté. Il faut savoir qu'on doit s'arrêter à tous les passages piétons, à toutes les portes. Donc le but, c'est qu'il apprenne à faire attention à son environnement et puis qu'il marque tous ces endroits-là pour plus tard faciliter son éducation. Van Gogh ? Là. Assis. Allez, c'est vert, on y va. Van Gogh ? Ouais, super. Alors, il fonctionne très très bien la croquette.
c'est sa passion numéro un. Donc en fait, le chien, il m'accompagne partout parce que nous, notre rôle en tant que famille d'accueil, c'est vraiment de lui apporter une éducation où il soit à l'aise dans tous les environnements, dans toutes les situations, pour plus tard être un chien qui n'a peur de rien. Wang. Hey. Assis. Super. Alors là, on arrive au métro, donc il faut savoir qu'il y a deux consignes quand c'est des escaliers descendants. Le chien doit s'asseoir et c'est là où je vais le porter pour descendre. Et quand c'est des escaliers montants, le chien doit mettre ses deux pattes sur la première marche et après je le porte pour monter. Il faut le porter parce que c'est une race de chien qui peut faire de la dysplasie plus tard. Et là, comme ils sont encore en pleine croissance, on essaie de pas trop abîmer leurs hanches et donc on porte, peu importe son poids. Doucement, Van Gogh. Doucement, doucement. Oui, super. Ouais, ça c'est un bon chien, ça. Oui, 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 il a tout compris. Tiens, on va prendre une croquette. Ouais. Ouais, c'est trop bien, c'est trop facile, ça. Hein, on va rentrer dans le métro, donc on a de la chance. Il n'y a pas grand monde. Et donc on va s'installer et je vais faire l'autre chose qu'on nous a appris la semaine dernière, c'est-à-dire le mettre entre nos jambes pour qu'il soit à sa place. Donc nous, on est dans les espaces un peu plus ouverts où il y a les strapontins. Il devra guider, lui, son aveugle sur ces espaces-là. Je mets la croquette derrière la jambe pour qu'il arrive à l'attirer jusqu'à entre mes deux jambes. Hop, il s'assoit et je dis « Dessous ta place ». Et je lui donne la petite friandise et normalement, il ne bougera pas du trajet, il va s'allonger, il va rester assis. Il est content. Et en fait, même nous, ça nous permet quand même d'appréhender le handicap d'une autre façon. Les difficultés qu'il y a, en fait, le nombre d'étapes qu'il y a tous les 10 mètres. Voilà. Nous, on a vraiment une prise de conscience avec le chien et tous les exercices qu'on doit lui faire faire. Allez, bah ça y est, on arrive enfin au boulot. Donc, on va faire le dernier escalier. Allez, les pattes. Ouais, super. Et c'est parti.
Ah oui, il faut porter le Labrador, ça n'est pas le plus facile. Demain, nouvel épisode, Van Gogh au travail.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de festival.
Et je vous emmène, Jérôme, à Brie, en Ille-et-Vilaine. En 2022, l'association Rock and Fée avait créé son festival dans le bar de ce village de 1000 habitants. Après une édition payante en 2023 et un passage à deux soirs en 2024, l'association met l'événement en pause cette année. On s'arrête pour mieux repartir, promet à Ouest France la porte-parole. L'an passé, on a eu moins de monde que prévu et notre modèle économique repose essentiellement sur nos fonds propres. Alors, à la place, une guinguette a lieu pour renflouer les caisses avant 2026.
Ça n'est pas un cas isolé.
Malheureusement, non. Aucun décompte global n'existe, mais j'ai constaté que des dizaines d'événements ne tiendront pas leur festival en 2025. Certains se mettent en pause, d'autres deviennent biennaux, d'autres encore arrêtent définitivement. Rien qu'en Ille-et-Vilaine, on compte au moins 5 défections cet été, mais c'est tout le pays qui est touché. Les festivals ont le blues, a titré samedi le Républicain Lorrain, citant notamment les annulations des éditions 2025 du Palmarosa à Montpellier dans l'Hérault, du Vrai Repère Festival à Varère dans le Lot, ou encore du Porto Latino à Bastien en Haute-Corse. Le Vercors Music Festival à Autran en Isère, lui, fait ses adieux définitifs après 10 années. La raison, un déficit de 110 000 euros, écrit le Dauphiné Libéré. Et l'hécatombe continue, Jérôme. Hier, c'est le Revival Music Festival à Hauteville-sur-Mer dans la Manche qui a annulé son édition prévue mi-juillet. Il y avait bien des têtes d'affiche, Lio, Patrick Fiori ou Vita, mais le taux de remplissage était trop faible et les subventions inexistantes.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ces annulations ?
Eh bien, selon le Centre National de la Musique, 80% des festivals ont rencontré des difficultés en 2024 et elles sont principalement financières. Première cause, la baisse des subventions liées aux coupes budgétaires dans la culture votées dans au moins 9 régions de France selon le syndicat des musiques actuelles. En parallèle, les frais fixes augmentent, assurances, matériel. En 3 ans, on a subi 30% d'inflation rien que sur la partie prestations, indique à Ouest France le patron des Vieilles Charrues. Et puis, les têtes d'affiche sont de plus en plus chères. Ce sont pourtant elles qui font vendre le plus plus de billets, hein, dont les prix augmentent. Pour s'équilibrer, un festival doit remplir à 98%, indique Carole Meyer, directrice du festival Art Rock à Saint-Brieuc. Et puis, autre raison, la concurrence des stades et salles de concert et la volatilité des 15-25, des 15-24 ans. Rappelons aussi, Jérôme, que beaucoup de festivals sont organisés par des associations.
Ouais, faut trouver
et qu'il
les bénévoles.
Faut évidemment trouver des bénévoles. Face à ces difficultés, un groupe de travail a été constitué au ministère de la Culture et les professionnels réfléchissent à l'avenir des festivals.
Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a aussi des créations de festivals.
Oui, Jérôme, trois exemples là aussi parmi beaucoup d'autres de premières qui auront lieu ces jours-ci. Les nuits théâtrales de Simone à Sifour dans le Var, le festival Don Ré Mi Fa Sol dans les Vosges ou le Nul Bar After Festival qui mêle musique et engagement à Merlimont dans le Pas-de-Calais. Alors j'ai échangé avec la directrice de France Festival pour avoir un chiffre précis. 7300 festivals ont été organisés en 2019 en France, c'est le seul chiffre existant, mais avec les arrêts et les créations, il reste fiable, me dit-elle, en attendant un éventuel nouveau décompte. Alors, en tout cas, 44% sont des festivals de musique, 22% de spectacles vivants rapportés à la population. C'est en Corse, en PACA et en Bretagne qu'on en organise le plus. Ce week-end, on dansera à Solidaise à Paris-Longchamp, mais le plus grand avec et sans billetterie et breton, c'est Jérôme, le festival.
Ça sent l'Orient, ça.
De l'Orient, exactement.
On a une affiche ?
Oui, pendant toute une semaine, hein, au stade du Moustoir notamment, toute la musique celtique représentée, évidemment.
Merci Cyril Petit, c'est la France des festivals aujourd'hui. C'est une chanson, Frédéric Pommier, c'est le réalisateur Tony Gatliff qu'on retrouve à votre micro.
Son nouveau film Ange sort demain en salle, film comme toujours très musical, il est porté par Arthur H. Et c'est d'une chanson polonaise que Tony Gatliff m'a parlé, Dossier Biekaziuniu du groupe Warsaw Village Band, groupe qu'il a découvert au milieu des années 90 lors d'un séjour à Varsovie.
Les gens m'ont parlé de Varsovie en me disant que mes films sont bien aimés à Varsovie. Et je suis allé avec Delphine Montoulé qui travaillait avec moi dans la musique du film. Et donc on a été allé faire une promenade à Varsovie avec notre assistant qui était génial, un mec qui voulait faire plein de choses, un jeune, hein, et qui nous a amenés dans la banlieue de Varsovie, dans une banlieue lugubre, dans une cave où il y avait peut-être 20 personnes, même pas, et un groupe génial, c'était eux. Super, vraiment super. Il y avait une trompette, une vielle, tout ce que j'adorais. Et là, j'ai eu un choc. À chaque fois que je vais quelque part, en Andalousie, en Inde, partout, je demande à voir des choses. Je vais toujours là où personne ne va, parce que ça fait peur, comme la banlieue de Varsovie, personne n'allait là-bas. Hein. Il n'y avait pas de touristes. Hein.
Pour vous, c'est une manière de comprendre vraiment le pays ?
Absolument, comprendre le pays. Et puis aller à la rencontre des choses qui nous ressemblent.
Là, est-ce que vous diriez que ce qui vous a plu dans cette musique-là aussi, c'est qu'elle vous ressemble ?
Absolument. Elle me ressemble énormément. C'est pas tout le temps qu'une musique nous choque, nous prenne. Hein. C'est génial.
C'est en 2002 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Chanson fortement inspirée par la musique traditionnelle polonaise. Tony Gatliff aime cette musique. Et les paroles qu'on lui a traduites par la suite le bouleversent tout autant.
À toi, Cathy, sur un char forgé, nous te portons des souliers en or. Ouvre la porte, nous te portons une robe en or. Ouvre-nous la porte, nous te portons des alliances d'or. À toi, Cathy, à toi, sur un char forgé, nous te portons ton fiancé en or. Ouvre la porte, Cathy.
Cette chanson, elle raconte une cérémonie précédant le mariage.
Précédant le mariage, mais un bon mariage. Pas des mariages forcés, pas des mariages archaïques. Et moi, j'ai aimé cette chanson tout de suite, avec la musique d'abord, et puis avec le texte, parce qu'elle ressemblait à mon histoire, l'histoire que j'avais avec mon frère, qui à l'âge de 20 ans est mort d'amour. à cause de l'archaïsme des gens autour de ma famille, des gens qui ne voulaient pas de l'amour de mon frère avec une jeune femme. Il aimait perdument une femme, cette femme l'aimait, et la famille ne voulait pas la marier à une famille pauvre qui était ma famille. Et mon frère est mort dans les bras de ma mère, d'amour. Et donc il est mort du chagrin d'amour.
Il est vraiment mort de chagrin?
Ah ouais, ouais. C'est en Algérie, et c'est une tradition que les fiancés ne doivent pas s'aimer. Et eux, ils s'aimaient d'amour. C'est un peu le standard, mais Juliette. Et la jeune fille a épousé un homme que lui a désigné à la famille. Donc c'est pour ça que cette chanson, je l'aime beaucoup, parce qu'elle me parle. Elle m'émeut beaucoup.
En fait, ce mariage que raconte cette chanson, c'est le mariage que vous auriez souhaité pour votre petit frère.
Bien sûr, absolument. Des souliers d'or, ta robe en or, tes alliances en or, ton fiancé en or.
L'histoire de votre frère, vous avez déjà imaginé en faire un film ?
Non, je trouve douloureux pour moi. Cette histoire, elle est trop douloureuse. Mais c'est une histoire à moi que je partage avec vous.
Dossier biais, Casu-nous du groupe Warsaw Village Band. C'était donc Frédéric, le choix de Tony Gatliff.
Tony Gatliff, dont Ange, le nouveau film, sort demain au cinéma.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, on va s'intéresser à Romain Gary, l'écologiste.
À tout de suite.